d'un côté, et le monothéisme hébreu de l'autre. Et je ne sais pas si nous aurons le temps de faire l'étude de plus qu'une référence, mais je vous ai choisi, en ce qui concerne les références du monothéisme hébreu, un des textes les plus classiques auxquels vous êtes déjà familiers, le premier paragraphe du Kriyat Shema. J'espère qu'on pourra aller plus loin que le premier verset d'ailleurs. Et nous allons, nous allons suivre un certain nombre de commentaires traditionnels sur cette première source de définition du monothéisme hébreu.
Je me demandais, c'est de qui ?
Quoi de
qui ? Le premier paragraphe du chemin, je me demandais de qui ?
Ah. C'est pour ça que vous riez en hébreu. Et concernant cette première source, d'ailleurs, je pense que j'aurai inévitablement l'occasion, au cours des études et des analyses, de vous citer d'autres références, mais c'est surtout celle-là que nous allons étudier. Alors, ce matin, on vous a distribué trois textes. Vous avez d'abord celui-là, qui est... Oui ? Celui-là, vous voyez ? Eh bien, vous en avez quelque part par là,
à l'entrée,
oui. Bien, donc le premier texte qui est le texte de base, qui est le texte du Chumash, et je vous donne tout de suite la référence, c'est le Deutéronome, de Varim, chapitre 6, et vous commencez au verset 4 jusqu'à la dernière, juste à la dernière ligne. Vous avez deux mots dans cette page, et ce sera la suite. Et c'est la première référence, je vois que ça a été polycopié faiblement, si j'ose dire. Enfin, nous essaierons quand même de suivre le commentaire de Rashi sur le premier verset. Ensuite, vous avez cette page-là. Alors, on vous a mis les choses ensemble. Disons, ce cahier-là. Mais je n'aurai besoin ce matin que de la première page, qui est la photocopie d'un des Midrashim dont je me servirai sur ce premier verset, et que vous avez là. Vous voyez ? C'est la page où il y a marqué 1. Bon. Gardez précieusement ce qui suit. Si nous avons le temps dans le courant de la semaine, nous aurons un éclairage sur ce premier midrash d'une toute autre manière par le commentaire que vous avez là. Ensuite, vous avez un autre chapitre du Chumash, du Pentateuch, qui est le chapitre 19 de Shemot, de l'Exode. Alors, immédiatement, je vous expliquerai pourquoi nous avons besoin de ces trois références. S'il nous reste du temps, alors nous essaierons d'approfondir un peu plus par ce texte-là qu'on ne vous a pas encore distribué, qu'on vous distribuera dans deux ou trois séances, mais que ceux qui savent déjà lire Rashi pourront prendre à la fin de la séance pour le préparer. C'est le commentaire du Réhem de Rabbi Léon Mizrahi sur ce verset de Rashi, sur le commentaire de Rashi, et la controverse entre le Gourari et le Réhem. Je vous expliquerai tous ces chinois-là, tous ces mots chinois après, sur ce que nous allons commencer à étudier aujourd'hui. Alors, ceux qui peuvent déjà prendre cette référence pour la préparer, vous la prendrez à la fin. Bien, je vais commencer par une analyse très brève de vocabulaire pour définir ce que nous allons entendre par le monothéisme hébreu. Et tous ces textes du matin nous serviront d'appui pour les discussions des conférences du soir. Je ne connais pas encore le détail de ce qui a été prévu, mais le soir, nous allons avoir différents points de vue de spécialistes des problèmes de la confrontation entre la sensibilité religieuse païenne et la sensibilité religieuse monothéisme, du point de vue du judaïsme. Donc ça vous servira d'arrière-plan. Jeudi soir, c'est moi qui dois donner une conférence sur ce problème, et dimanche, nous aurons une table ronde de mise au point de l'ensemble des idées qui auront été formulées. La difficulté de ces séminaires, comme vous le savez, c'est que ça se fait par petits morceaux et que pas tout le monde a assisté à tout, mais malgré tout, on ne peut pas faire autrement. Ce sont les difficultés de la vie culturelle juive contemporaine dans un pays comme la France. Bon, je referme la parenthèse. Et je vais prendre comme donc première analyse de vocabulaire et le principe de différence du monothéisme sémite en général, et en m'appuyant plus particulièrement sur le monothéisme de l'islam et le monothéisme hébraïque. Ensuite, immédiatement après cette introduction, nous allons étudier la traduction du verset fondamental qui est la proclamation de foi juive hébraïque du monothéisme hébreu, et nous commencerons à analyser les perspectives de définition de l'idée du Dieu un ou du Dieu unique. C'est mon premier problème, c'est pas exactement le même concept. Alors, je vous donne quelques références en hébreu de vocabulaire. D'abord, la première analyse, ce sera la différence entre la notion du Dieu un et la notion du Dieu unique. Le mot de unique se dit en hébreu Yahid, unique. Yahid. Alors, en français, le substantif qui correspond à unique, c'est unicité. Le mot de un se dit Echad. Et le substantif, c'est unité. Alors, notre premier problème, c'est d'arriver à distinguer entre ces deux notions. Et la première formule la conviction ou l'expérience du monothéisme sémite en général. Et à travers l'histoire des traditions, c'est finalement dans l'islam qu'elle va se concrétiser et se formuler de la façon la plus directe. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, je vais le formuler un peu différemment. S'il y a Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et vous connaissez la profession de foi de l'islam, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça a l'air d'être une tautologie, cela ne l'est pas, parce qu'il y a une formule, il y a un aspect polémique de cette formule qui lutte contre le polythéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des dieux, il n'y a pas plusieurs absolus, il n'y a pas plusieurs mondes de valeurs qui seraient différents les uns des autres et irréductibles les uns aux autres. Ce qui est un peu l'atmosphère générale de la sensibilité religieuse païenne ou polythéiste, et nous aurons à distinguer païen et polythéiste, mais païen c'est beaucoup plus général que polythéiste. Il y a là quand même une profession de foi méditante, positive, il n'y a de Dieu que Dieu, sous-entendu l'unique. Et ce monothéisme-là est authentiquement homogène au monothéisme hébreu, mais il est beaucoup plus large. Et la formule du monothéisme hébreu porte plus sur la notion de l'unité de ce Dieu qui est unique que sur son unicité. Est-ce que cela a été suffisamment clair jusque-là? C'est-à-dire, nous allons avoir un texte où l'affirmation est que Dieu est Echad, un. Alors, bien sûr, il y a un premier postulat que la base du monothéisme sémite est déjà intégrée, est déjà affirmée, que le Dieu dont on parle, c'est le Dieu unique, qu'il n'y en a pas d'autre. Mais le problème qui est posé, c'est celui que je formulerai ainsi, ce Dieu qui est unique est un. Donc il faut découvrir à quelle question, ou à quel problème, ou à quelle difficulté, cette deuxième formule du monothéisme hébreu, plus spécifique que le monothéisme sémite en général, veut répondre. Est-ce que c'est bien clair? Alors nous allons être gênés, encore une fois, par le vocabulaire français, puisque dans toutes les catégories, toutes les notions, tous les concepts que nous avons désignés, il y a des connotations de théologie chrétienne, c'est bien évident. Nous allons essayer de laisser cela un peu à la périphérie, disons pour une des dernières séances, et essayons malgré tout de faire l'effort d'avoir oublié ces connotations de théologie chrétienne qu'il y a dans les mots que nous allons employer. Mais la question qui va se poser à nous est la suivante. L'idée du Dieu un, qui est donc, encore une fois, bien plus spécifique que l'idée du Dieu unique, qui l'implique, mais qui ne la recouvre pas purement et simplement, semble être contradictoire avec l'expérience que nous avons de la sensibilité religieuse, de celui qui aurait une sensibilité religieuse, l'expérience que nous avons de la représentation du monde. C'est-à-dire, la connaissance du monde créé par ce Dieu un, nous renverrait au contraire naturellement et plus directement rationnellement aussi à la conviction d'un polythéisme et non pas d'un monothéisme. Ou je poserai la question d'une autre manière, est-ce que l'idée du Dieu un est rationnelle? Et nous verrons qu'il n'en est rien. Elle n'est pas, si vous voulez, un objet de raison. Elle n'est pas un objet d'évidence rationnelle d'abord. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je vais essayer d'éclairer. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous m'excusez si je vous pose des questions. C'est que, en tout cas pour les premières phrases, je n'arriverai pas à lire tout de suite sur vos visages si ça passe ou pas. Et je vais essayer de l'éclairer par un texte du Zohar, qui est un texte classique, fondamental, qui dit ceci. Savoir que Dieu est bon, c'est de la connaissance. Savoir que Dieu est grand, qu'il est juste, qu'il est tout-puissant, etc. Les attributs, c'est de la connaissance. Savoir qu'il est un, c'est de la foi. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que tout simplement, la perception de la représentation de ces attributs de médiation entre Dieu et son monde nous renvoie à des expériences contradictoires. Lorsque nous sommes occupés à percevoir, à effectuer la représentation de l'attribut de bonté, par exemple, le soleil brille, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui, c'est une des expressions dans la réalité du monde de l'attribut de Chesed. Lorsque le soleil brille, il brille pour tout le monde, dit la Gemara Ta'anit, par exemple, et les tzadikim et les rechaim, et pour les justes et pour les méchants, c'est-à-dire que le soleil qui brille ne tient pas compte des critères de mérite moral, c'est d'une charité infinie, c'est d'un chesed infini. Eh bien, lorsque je suis occupé à percevoir ce dévoilement de l'attribut de bonté, eh bien, je suis d'une certaine manière imperméable, aveugle, en dehors d'une expérience corollaire qui serait être occupé à percevoir l'attribut de rigueur, de justice absolue, mais qui se dévoile, par exemple, à travers l'impitoyabilité des lois de la nature, que dans ce même monde, il y a une loi comme celle de la pesanteur, qui fait que si par inadvertance je bascule de la balustrade du troisième étage, arrivé en bas, il se passe quelque chose, et que c'est impitoyable. Et donc, nous avons des expériences extrêmement multiples de ce que nous pourrions appeler la relation de médiation entre le Dieu unique créateur du monde et d'autre part son monde. Donc les attributs sont multiples, mais non seulement multiples, mais semble-t-il contradictoires et exclusifs les uns des autres. On va ajouter par terre. Oui, pour le milieu.
Si on s'y peut vraiment, on entend ça.
D'accord.
Non,
oui, vous suivez. Vous suivez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la familiarité avec cette évidence que nous avons véhiculée à travers l'histoire des cultures et des civilisations et dans notre propre hérédité spirituelle, la familiarité avec cette évidence que Dieu est un nous cache le problème auquel cette formule voulait répondre. Mais je veux dire que l'expérience immédiate, naturelle et aussi rationnelle de ce problème nous renverrait plus aisément à une expérience païenne polythéiste qu'à l'expérience monothéiste hébraïque. C'est, je crois, ce qu'il faut découvrir. Est-ce que c'est bien clair? Avant d'aborder le verset, je crois qu'il faut bien distinguer entre ces deux notions. Le verset que nous allons étudier n'est pas occupé à l'affirmation de l'unicité de Dieu, qu'il est unique à être ce qu'il est, qu'il n'y en a pas d'autre, mais à une affirmation qui prend le problème plus à l'intérieur de cette notion, et voilà que, contrairement aux apparences que nous pourrions avoir de l'expérience de la représentation du monde, et aussi de l'effectuation de notre propre raison, de notre propre pensée, livrée à ses seules forces, ce Dieu qui est unique est un. Alors c'est à ce niveau du problème que nous allons commencer l'étude. Ceux qui connaissent le texte du Kriyat Shema, je le dis simplement en passant, savent que c'est la portée du verset, et vous ne vous égarerez pas après vos yeux et après votre cœur. Velotaturu, acharei enechem, acharei levaprem. Et la Gemara dit, après vos yeux, ça c'est l'idolâtrie. Après votre cœur, ça c'est apikorsut, comme on peut traduire ça en français. L'athéisme c'est faible par rapport à ce que c'est apikoros, hein? L'hérésie. C'est-à-dire, les yeux nous renvoient à une expérience de représentation du monde qui semble fonder le polythéisme plus que le monothéisme. Les yeux, ça veut dire relation au monde extérieur. Le cœur, c'est relation à la raison, relation à la pensée. Et notre raison ne peut pas ne pas être sensible, mais c'est caché par cette familiarité dont je vous parlais, une espèce de prodigalité de familiarité d'évidence qui fait prendre une donnée de la foi pour une donnée de la raison. Nous allons voir qu'il y a un pari de l'âme d'affirmer qu'en dépit de toute apparence, Dieu est un. Mais c'est un pari. Voilà, si vous voulez, une première analyse du programme d'études que nous allons avoir, et d'études en études, nous allons entrer dans les dimensions intérieures de ce problème. Ça va bien jusque-là? Si vous voulez, une petite parenthèse que je raccroche à cette définition, au niveau d'une pédagogie fondamentale ou élémentaire, et ce que je vais essayer d'expliquer là vaut aussi pour énormément de notions de la tradition juive. Je crois que c'est une erreur pédagogique néfaste de faire croire aux enfants, par exemple, ou à ceux qui commencent à étudier, que des notions telles que le monothéisme hébreu c'est une donnée de raison. Parce que l'enfant va grandir, il va s'apercevoir que c'est contradictoire au principe d'unité, qui est le principe fondamental de la raison raisonnante, si j'ose dire, et il va se demander si on ne lui a pas raconté des histoires, en lui disant d'un air pieux et grave que c'était rationnel, alors que par sa propre expérience, il va découvrir qu'il n'en est rien. Bon, c'est pas grave, mais ce qui est grave, c'est qu'il risque de ne plus manger cachère. Oui, jusqu'où ça peut aller. Non, vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui est grave, c'est que ce qui risque d'être mis évacué, c'est la morale corollaire à ce monothéisme hébreu. Donc nous aurions peut-être un sujet de séminaire, en quoi manger cachère, c'est de la morale. Bon, c'est notre problème. Bien, alors je crois que maintenant, s'il n'y a pas de questions sur cette première introduction, nous pourrions peut-être commencer à lire le verset. Ken, mais très rapidement sur le sujet, monsieur. Plus fort.
C'est en fait l'antagonisme entre les sirotes, l'unité qui est en dépit de l'antagonisme entre les sirotes.
Oui, ça peut être dit comme ça, seulement vous nous imputez de connaissances qu'on n'a pas encore. Alors, si vous voulez, pour la bonne marge de l'étude. Vous pouvez poser toutes les questions que vous pouvez, mais sur le sujet, compte tenu de ce qu'on a déjà appris, parce que sinon, vous êtes chacun d'entre vous a un univers bibliographique tellement différent que... T'as compris? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. Alors, nous allons donc lire le verset d'abord. Et vous allez le prendre dans cette page. Dernière ligne de la page 100. J'avoue que c'est tellement faible que l'éclairage est difficile. De la page 100, tout simplement.
120.
Ah, c'est 120. Bon, 100. Voilà. Alors, il y a 6 mots que nous allons lire ensemble.
Je vais les mettre
les uns après les autres. On va les suivre les uns après les autres. Alors c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est un verset qui n'est pas simple, parce que du point de vue d'une traduction purement directe, je ne vais pas dire littérale, mais une traduction directe, soit il y a un mot de trop, soit il en manque un. Mais nous allons le lire très rapidement. Shema, écoute, entend, comprend, Israël. Donc quelqu'un s'adresse à Israël pour lui dire Shema. Hashem, c'est le terme qui est employé pour dire je donne tout ce que j'ai. Ah, c'est à vous. Donc, écoutez, c'est peut-être à l'entrée les feuilles. Il n'y en a plus.
C'est les papiers de Monsieur Michel.
Tiens, on va aller. Alors, je reprends. Donc, Shema Israël, quelqu'un s'adresse à Israël. Nous allons donc nous poser la question, qui parle à Israël pour lui dire cela? Shema Israël, écoute, entends, comprends. Mais il y a un sens de Dumont Schmar que l'on n'indique pas toujours et qui est important pour nous. Ça va se relier avec ce qu'on a dit immédiatement avant. Schmar, ça veut dire aussi « prends garde ». Il y a une exhortation, il y a une mise en garde. Et vous voyez, vous comprenez, si vous entendez le mot de « mise en garde » qu'il y a dans Schmar en hébreu, ça veut dire que ce n'est pas si évident que ça. Et à qui s'adresse-t-on pour cette mise en garde qui va parler de l'unité de Dieu en tant qu'exhortation de mise en garde? À Israël, qui est censé être le premier, la première manière d'être homme qui, dans l'histoire des hommes, a été sensible à cette évidence. Il y a ici un mystère, enfin un paradoxe. Okay, et s'il y a un livre où on ne devrait pas s'attendre à trouver une telle exhortation, c'est bien la Torah des Hébreux, puisque, en principe, ils étaient, eux, sensibles à cette évidence, non pas rationnelle ou expérimentale, mais de la foi, par expérience de la prophétie, nous y reviendrons, que, malgré les apparences, Dieu est un. Or, c'est précisément à eux qu'on dit « prends garde, fais attention, n'oublie pas ». Vous comprenez le paradoxe? D'ailleurs, c'est un paradoxe général des exhortations de la Torah, mais comme dit le Talmud, dans plusieurs références et dans des formules un peu différentes, mais qui reviennent à cette même idée, il n'y a que une identité qui pourrait réussir que l'on met en question dans une mise à l'épreuve. C'est précisément parce que en Israël, cette idée, ce principe, cette évidence de l'unité des valeurs, en dépit des apparences, peut se réaliser, que c'est là qu'est la mise à l'épreuve. On n'interpellera pas, si vous voulez, une conscience qui n'a pas eu l'histoire et la mémoire et l'expérience d'Israël sur cette orthodoxie de l'unité de Dieu. À la limite, il suffira qu'on lui demande de répudier toute idolâtrie. Nous aurons à étudier une référence très importante où la Gemara dit tout simplement « Celui qui a répudié l'idolâtrie s'appelle juif. » C'est une définition négative. Okay? Vous voyez combien de juifs il y a dans le monde? Très peu. Mais on n'aura pas cette interpellation. Cette interpellation va mettre en question, va mettre à l'épreuve ceux qui peuvent arriver à ce niveau d'évidence. Mais je reprendrai cela de façon plus précise encore. Donc, pour le premier mot, c'est important. Schmar, c'est pas simplement écoute, entends ce que je vais te dire. Nous sommes trop habitués au style pastiche de la Bible. Je vais essayer un peu d'hébraïser la lecture. Mais ça veut dire mise en garde. Schmar, prends garde. Okay? Entends bien. Israël. Et là, pardon, j'avais oublié. Et là, il faut que nous posions la question, mais qui parle à qui? Hachem, c'était là que j'étais arrivé. C'est le terme employé par l'hébreu de la Torah, par le Lashon HaKodesh, pour dire, c'est le nom propre de celui dont on parle quand on dit qu'il est Dieu. Là, le mot de Dieu a plus un sens d'adjectif, bien que ce soit un substantif. Celui qui est Dieu. Analogie vraiment très très lointaine, mais c'est la seule dont nous pouvons disposer. Chaque homme est un homme, mais chacun est celui qu'il est. Alors celui dont on dit qu'il est un homme. Et il y a donc un nom propre pour désigner le celui spécifique dont on parle lorsqu'on dit qu'il est un homme, et le mot homme. Et le mot homme, bien que substantif, prend ici un sens d'adjectif. C'est clair? Le cas particulier dans la classe divine, c'est qu'on a déjà appris l'unicité, qu'il y en a un seul, dont on peut dire qu'il est l'ensemble de ces allusions à l'être Dieu dont parlent les hommes. Mais ici, le mot Hachem désigne lui qui est Dieu. D'autre part, Elokeinu, Hachem Elokeinu, notre Dieu, donc quelqu'un parle à Israël et dit Hachem Elokeinu, celui qui est notre Dieu à toi et à moi. Qui parle à Israël pour dire cela? Okay. Et Hachem Echad est un Dieu, est un Hachem, Slecha, un. Alors on peut aussi entendre en filigrane unique, et je pense que dans beaucoup de traductions on dit tout simplement unique, mais le sens précis qui va nous occuper dans ce problème, parce que toute la confrontation entre le monothéisme et le paganisme, et le polythéisme en particulier, porte là-dessus, okay. c'est la notion d'unité plus que celle d'unicité. Bon. Eh bien, je crois que je vais tout simplement choisir cette question qui est apparue dans la lecture, si elle est suffisamment claire déjà. Vous avez remarqué qu'il y a ou un mot de trop ou un mot de moins. Hein. Il aurait pu suffire de dire, vous le reverrez avec le Mizrahi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Echad. Okay. Ou bien, et là, nous le verrons dans la lecture de Rashi, il faudrait dire Shema Israël, Hashem Shehu Elokeinu, Hu Hashem Echad. Je le dis en hébreu, mais nous y reviendrons en français par la suite. Alors, je vais poser cette question. Nous allons avoir une analyse de l'ensemble du sujet sur ce premier problème. D'abord, une analyse théorique, purement méthodologique. Et ensuite, nous allons ranger dans ces cases, si j'ose dire, des références très précises de la tradition. Nous allons étudier une après. Alors, voilà donc la question qui s'est posée à elle. Qui parle à qui pour lui dire « Shema Israël, écoute Israël, Hachem qui est notre Dieu, et dans ce notre, les deux inclus, est un Hachem un. » Avec, à la limite, cette connotation, et en tant qu'il est un, c'est le même. Mais il faut d'abord découvrir quel était le problème auquel on voulait répondre. Et je crois que la manière la plus directe de découvrir à quel problème de non-évidence on voulait répondre, on pourra l'atteindre si on comprend qui parle à qui. Alors, nous allons d'abord avoir, je vais employer une méthode talmudique, c'est-à-dire en deux points. D'abord, une analyse méthodologique du problème, et ensuite, une analyse des sources. Ceux qui sont un peu familiers avec l'étude talmudique, c'est le principe qui s'appelle « Iba et ema sbara, iba et ema kra ». Ça veut dire, nous pouvons commencer par un raisonnement, une analyse qui mettra en évidence par le raisonnement de quoi il s'agit, ou nous pouvons aussi commencer par des références aux sources. Je préfère, si vous voulez, commencer par l'analyse méthodologique et ensuite vous désigner tout de suite notre programme d'étude des sources à ce sujet. Mais je crois qu'il y a, et nous allons le découvrir immédiatement, que trois positions possibles de cette situation où quelqu'un parle à Israël pour lui dire « Sache Israël, nous avons le même Dieu », malgré les apports. D'abord, une analyse purement formelle. De voir que dans la situation existentielle, c'est ou bien des plusieurs, des nombreux, qui disent à un Israël, alors on met plusieurs comme ça, et puis un comme ça, bien, Rabim Yachid. Beaucoup s'adressent à un seul s'adresse à beaucoup, ou beaucoup s'adresse à beaucoup. Voilà, c'est ces trois situations que nous allons voir d'ailleurs dans l'histoire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, qui est Israël ? Israël, c'est le peuple d'Israël auquel s'adresse la révélation des prophètes de la Bible lorsqu'ils disent « parle aux enfants d'Israël ». Mais ça a été d'abord un personnage unique, qui a été Jacob, Yaakov Avinu, qui lui est le premier des patriarches à recevoir le nom d'Israël. Il y a donc une situation possible, et nous allons voir qu'elle existe, où on s'adresse à Jacob pour lui dire cette phrase, et quel sens cela a-t-il ? Donc, ce sera la première situation, qui s'adresse à Jacob, qui s'appelle Israël. Et nous allons trouver ça dans le Midrash. Je vous raconte l'histoire très brièvement, mais nous aurons cette source déjà peut-être aujourd'hui. Le Midrash nous raconte que, à la fin de sa vie, Jacob, se trouvant en Égypte, ayant déjà reçu le nom d'Israël dans son histoire individuelle, et il s'est donc dévoilé par là que cette identité Israël que Dieu attend dans l'histoire du monde pour se révéler au niveau de la Torah se prépare depuis Abraham, mais c'est au niveau de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qu'elle est déjà suffisamment digne, je cherche un autre mot, mais vous comprenez l'idée, de recevoir le nom Israël. C'est à Jacob, on vient de lire cela dans les parachiot dans les semaines immédiatement précédentes. C'est à Jacob que finalement Dieu se révélera pour dire c'est toi qui t'appelleras Israël. Abraham commence à faire émerger cette identité et alors on nous raconte l'histoire d'Abraham, mais nous savons déjà et nous pressentons que l'histoire d'Abraham nous est racontée comme préface à l'histoire de Jacob. Et puis ça continue avec Isaac, c'est de plus en plus précisé que c'est par cette lignée humaine-là, Isaac fils d'Abraham et pas une autre, que va passer l'effort d'engendrement de, d'émergence de cette identité Israël. Et en fin de compte, ce n'est qu'en troisième point, en gros plan, que c'est l'identité Jacob qui reçoit le nom Israël. A posteriori de cela, Isaac est d'Israël et Abraham est d'Israël, pas a priori. Un Abraham qui n'aurait pas mené à Isaac, c'est pas le nôtre. Un Isaac qui n'aurait pas mené à Jacob, c'est pas le nôtre. Et d'une certaine manière, il a fallu attendre que Jacob soit Israël pour que l'on sache, a posteriori, qu'Isaac et Abraham sont d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Et lorsque nous voyons comment se réalise le dégagement...